Bonjour, vous êtes bien sur BAC FM 106.1 pour l'émission mensuelle de la fabrique Emploi et Territoire, Avenir, Mode d'Emploi. Aujourd'hui, en co-animation avec Clémence Moreau, chef de projet du dispositif local d'accompagnement, nous recevons trois invités. Julien Frelon, directeur de l'ADES. Bonjour Julien.
Bonjour.
Et Julien Houdin, ergothérapeute, enseignant et micro-entrepreneur. Bonjour Julien.
Bonjour.
Alors on va recevoir également Alizée Quéré qui est alternante à l'ADES.
Bonjour.
Comme vous l'avez compris, nous allons parler emploi, formation, animation. Mais avant cela, nous vous proposons le très attendu quiz décalé de la fabrique comme un brise-glace. La règle est simple, répondre aux questions de notre quiz. Alors, vous aurez forcément la réponse au quiz, car c'est d'actualité avec nos invités d'aujourd'hui, puisque la réponse est forcément Julien, mais lequel ? Cela peut être Julien Frelon, de l'ADES, Julien Houdin, l'ergo, ou un autre Julien. Ok, ça vous va ?
Parfait.
Bon, super, très bien. Alors, première question, il travaille pour une association. Alors, vous pouvez répondre comme ça. Hein. Ouais, Julien, ouais, très bien, Julien, très bien. Mais lequel ?
Les deux.
Les deux, ouais.
Bonne alors, réponse.
Donc, l'ADES, c'est une association ?
Exactement.
Ok. Et toi, Julien Houdin, tu travailles aussi pour une association ?
Oui, pour APF France Handicap, qui est une grande association qui, historiquement, milite pour le droit des personnes en situation de handicap et qui gère également de nombreux établissements et structures médico-sociales en France.
Ok. Deuxième question. Chante souvent sous ventoline ?
Encore Julien ?
Ouais, c'est encore un Julien.
Mais... Chèvre-Tante ?
Ouais.
Alors, Julien Clerc.
Ah ouais, ça aurait pu être Julien Clerc, effectivement. Non, c'est Julien Doré.
Ah.
Ouais, sous ventoline. Mmh. J'ai perdu ma ventoline. Julien Doré, vous l'aviez pas celle-là ?
Non.
Non, c'est pas grave. Si je vous dis top 1, backstab ou constru ?
Ah, on est dans le monde du jeu vidéo.
Ouais. Alors du coup ?
Julien Houdin ?
Ouais, c'est ça. Ça te parle, Julien Houdin ?
Ça me parle un peu, ouais.
Ouais, pourquoi ? Alors tu peux nous dire un peu plus ?
En tant que joueur, en fait, voilà, j'aime bien jouer aux jeux vidéo.
Ok. Ok. Et ça a un lien avec ton activité professionnelle un peu ?
Oui, complètement. Maintenant, je développe aussi des solutions pour aider les gens à pouvoir jouer aux jeux vidéo. Ancien gamer, je m'y suis remis par le travail. Et puis, bah, du coup, c'est super intéressant de pouvoir faire partager le jeu vidéo à tous et toutes.
Très bien. Quatrième question. Alors, je vais vous la faire avec l'intonation. Top ! Né à Paris, élevé entre musique et journalisme, j'ai commencé ma carrière derrière le micro pour devenir, pendant près de 3 décennies, le visage d'un célèbre jeu télévisé, où les candidats enchaînaient les 9 points gagnants. Je suis...
Julien Lepers.
Ah, bravo, super. Dernière question, si je vous dis pitch, strike, home run, hit, out ?
Je vais dire Julien Frelon, facile.
Ouais, alors pourquoi Julien Frelon ?
Parce que passionné de baseball et donc voilà, c'est le vocabulaire, la sémantique de ce sport.
Ok. Bon bah très bien, merci à tous les deux d'avoir joué le jeu. Hein. Je vous propose maintenant de laisser le micro à Clémence, hein. Clémence qui travaille pour le dispositif local d'accompagnement et qui va interviewer Julien Frelon. Clémence, avant, tu peux nous dire deux mots sur ce qu'est le DLA, s'il te plaît ?
Oui, alors le DLA, c'est un dispositif, comme tu l'as dit, qui accompagne les structures de l'économie sociale et solidaire, principalement les associations employeuses. On s'intéresse qu'aux associations employeuses et on les accompagne soit de manière individuelle, soit de manière collective. Et voilà, pour ça, bah, je vous invite à aller sur le site de la fabrique où vous trouverez toutes les infos sur le DLA.
Très bien. Bah, je te laisse le micro, Clémence.
Très bien. Bah, merci. Alors, donc Julien. Pas Clémence. Julien Lepers, Julien Frelon. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui sur BAC FM. Donc, tu es directeur de l'ADES 58. Donc, c'est une structure qui est très identifiée dans le paysage nivernais. Pour commencer, simplement, si tu devais présenter l'ADES à quelqu'un qui ne connaît pas du tout, tu dirais quoi ?
Alors, je commencerai par tout simplement décrire l'acronyme, parce que c'est vrai qu'on est connu sous le sigle ADES 58, mais ADES, ça veut dire Association Départementale pour l'Emploi Sportif et Socioculturel. C'est une association qui a pour objet principal, depuis sa création, l'organisation et le développement de l'emploi dans les métiers du sport et de l'animation socioculturelle.
Ok. On va revenir un peu à toi. Quand on regarde ton parcours, on voit que tu es au cœur des dynamiques associatives de la NIAF. Qu'est-ce qui t'anime personnellement dans ce rôle-là aujourd'hui de directeur de l'ADES ?
Alors, c'est vrai que depuis toujours, j'ai eu un goût prononcé pour le secteur associatif, que ça soit en tant que pratiquant, puisque j'ai été sportif pratiquant, puis jeune dirigeant, salarié associatif pendant 8 ans aussi. Donc ça, ça a été un de mes gros parcours de vie. J'ai beaucoup appris aussi au travers de mon cursus universitaire, parce que j'ai fait la faculté des sciences du sport à Dijon. Et tout ça m'a amené à œuvrer et être au service notamment du monde fédéral, par le biais de ma passion qu'est le baseball, puisque j'ai beaucoup œuvré au sein de la Fédération Française de Baseball, en accompagnant notamment les équipes de France jeunes depuis 2010 vers des compétitions européennes, voire mondiales. Et j'ai fait pas mal de formations à destination de bénévoles, futurs encadrants, et tout ça aujourd'hui, de par mon poste de directeur, prend beaucoup de sens, parce que j'arrive maintenant à mettre de la transversalité par rapport à ma propre expérience, mes connaissances, au service des autres et au service notamment des associations qui se veulent employeuses.
Très bien, merci. Et donc l'ADES, c'est notamment un groupement d'employeurs. C'est une notion qui est un peu floue en fait pour tout à chacun. En fait, qu'est-ce que ça veut dire en fait être un groupement d'employeurs? Quel service vous proposez aux employeurs justement?
Alors c'est important de le rappeler effectivement, parce que l'association historique qui a été créée en 1991, a répondu en fait à une orientation ministérielle, notamment Roger Bambuc, le secrétaire d'État, qui se voulait de développer sur chaque territoire départemental une association pour justement créer de l'emploi, le développer et surtout le structurer et offrir aux salariés diplômés une protection sociale. En 2009, les dirigeants de l'ADES ont dû réajuster un peu le projet associatif en créant groupement d'employeurs pour répondre notamment à des obligations juridico-légales de mise à disposition de personnel. Et ce groupement d'employeurs, en fait, il a vraiment pour vocation à faciliter le recrutement, l'embauche auprès des structures utilisatrices qui peuvent avoir un besoin ponctuel, parfois permanent, non permanent, mais qui veulent simplifier les démarches administratives autour de l'emploi. Le groupement d'employeurs, il a un autre enjeu aussi, c'est qu'à travers l'emploi partagé, on arrive à construire des parcours de formation, des parcours de professionnalisation où on est capable de tendre vers des CDI et des temps pleins dans certains secteurs, et notamment je prends toujours le modèle de l'animateur sportif.
D'accord, alors justement c'est quoi le profil type en fait des structures qui font appel à vous?
Alors les profils types, collectivités, associations, associations sportives, associations socioculturelles, culturelles, on est sur des établissements publics, parce que donc on peut aussi intervenir auprès d'établissements publics. On intervient vraiment principalement dans les métiers de l'animation, mais aussi au-delà, puisque c'est vrai qu'on arrive à partager de l'emploi sur certaines fonctions support, comme notamment le secrétariat, la comptabilité. Donc on utilise l'outil du groupement d'employeurs pour partager de l'emploi dans tous les domaines qui se concentrent autour de ce champ d'application.
Donc on a parlé du groupement d'employeurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses que porte l'ADES aujourd'hui et que vous souhaitez partager?
Alors oui, l'ADES en fait a su voir son objet principal évoluer au fur et à mesure des années et surtout se renforcer. Aujourd'hui, l'ADES c'est aussi un service de conseil et d'information auprès des employeurs et salariés associatifs, puisqu'on dispose d'un réseau national profession sport et loisirs qui nous permet de bénéficier notamment de conseils juridiques auprès d'avocats sur tout ce qui est la vie associative, l'employabilité et autres. On cherche aussi à centraliser tout ce qui est offre et demande, de manière à mettre en relation à la fois salariés en recherche d'emploi, mais aussi structures en besoin. On propose certaines actions de formation et d'information formative sur le champ de la vie associative pour aider justement les bénévoles vers l'employabilité et les fonctions d'employeur. Et l'un de nos services un peu phare, c'est que depuis 2001, on est tiers de confiance de l'URSSAF, et en fait, on a développé par le biais de deux gestionnaires de paie à temps plein un service de paie gestion salariale qui est plutôt très apprécié, parce qu'en fait, ça permet à des associations locales employeuses de se décharger de tout ce qui touche au domaine administratif lié à l'emploi, que ça soit de la création de l'offre au recrutement par le biais d'un contrat de travail, la déclaration d'une embauche, les bulletins de salaire, déclaration de charges et ainsi de suite.
Et donc ça s'adresse à toutes les associations, peu importe leur secteur d'activité.
Exactement.
Ok, d'accord. parce que vous êtes très identifié sport, alors du coup c'est important quand même de le...
Ouais, oui, non, mais c'est vrai, c'est important de le... Alors, on est très identifié sport parce qu'on est né d'un dispositif vraiment ministériel et issu du ministère des Sports. Donc naturellement, la connotation a tout de suite pris le dessus, connotation sportive, mais le choix porté en 91 par les membres fondateurs de l'ADES a été tout de suite de s'ouvrir au métier de l'animation et notamment au champ socioculturel.
Et si on revient à l'ADES en tant que structure, on va dire dans sa globalité, comment tu décrirais sa dynamique actuelle ? Vous êtes plutôt dans une phase de consolidation, de transformation, de développement. On sait que le monde associatif est en pleine mutation aujourd'hui.
Alors oui, tout à fait. Et je vais même aller au-delà. C'est que donc, j'ai pris ces fonctions de directeur depuis l'été dernier, 2024. Je passe après un directeur emblématique qui a fait plus de 20 ans de carrière au sein de cette structure et qui l'a fait grandir, mûrir, qui l'a développé. Son empreinte sur le territoire et au sein de cette association est forcément très marquée. Aujourd'hui, moi, l'un de mes enjeux, c'est de pouvoir m'imprégner de ce que fait l'ADES, de ses valeurs, de sa déontologie, mais surtout aussi d'essayer de projeter le futur dans une dynamique différente, notamment en modernisant certains fonctionnements, certaines opérations, certaines actions.
Alors, sur quels axes, alors tu le dis un peu, mais tu aimerais voir l'ADES évoluer dans les mois ou les années à venir, notamment en matière d'emploi associatif?
On a beaucoup travaillé depuis un an avec une nouvelle chargée de communication sur la question de la marque employeur. Parce que c'est vrai que mettre en avant à la fois nos salariés, mais aussi les structures utilisatrices, c'est rendre à César ce qui appartient à César. Pourquoi ? Parce que sans les salariés et sans les structures, l'ADES et le projet associatif de l'ADES n'existeraient pas. Mmh. Donc c'est pour nous ultra important de continuer à travailler sur ce volet de la marque employeur. On a, comment dire, aussi acheté des nouveaux locaux pour implanter l'équipe administrative et rassembler toute notre logistique, que ce soit, comment dire, documentaire, matériel et autres. Et ça, je dois dire qu'après 20 ans passés dans les locaux de la Maison des Sports, c'est franchir une étape supplémentaire vers un avenir différent.
Et du coup, vous êtes, c'est où vos nouveaux locaux, si c'est pas indiscret, si c'est possible de le dire?
On n'est pas très loin de la station, BAC FM, puisqu'on est situé rue Lamartine à Nevers.
D'accord, ok. Bah, merci beaucoup, Julien. Alors, je me tourne maintenant vers toi, Alizée. En fait, tu accompagnes une action qui attire la curiosité, en tout cas, on va dire laquelle, rien que par son nom, donc c'est l'épadathlon,
oui,
je le prononce bien.
C'est parfait.
Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui découvrent ce terme un peu étonnant, c'est quoi exactement l'épadathlon? Et alors, comment est née cette idée aussi?
Alors, l'idée est née en 2016 via des élus de l'ADES 58 en créant du coup un pôle sport santé au sein de l'ADES et en ayant une chargée d'activité physique adaptée qu'on a recrutée. Et en 2021, cette manifestation est créée, donc dénommée l'EHPADathlon. C'est une animation sportive du coup qui regroupe tous les EHPAD de la Nièvre, donc 27 cette année en 2025, sur trois demi-journées qui sont du coup des demi-finales. Et en fait, on propose plein d'ateliers et tous les EHPAD s'affrontent sur les différents ateliers. Donc, vous avez quelques personnes âgées qui s'affrontent tout ensemble. Le but principal du coup de cette journée est de promouvoir en fait l'activité physique adaptée, que ça soit pour les résidents et le personnel qui est au sein des EHPAD, et aussi de vivre une expérience riche de sens et de partage hors des murs du coup des établissements des EHPAD par exemple. Et cette manifestation du coup, elle est préparée au préalable par des interventions. Du coup avec l'enseignante d'activité physique adaptée pour justement préparer les personnes âgées aux ateliers sportifs et justement les préparer en amont. Et tout ça, c'est financé du coup par l'ARS et le département via la conférence des financeurs. Et là, cette année, donc, la finale a eu lieu le 19 novembre à Decize. Et c'est l'EHPAD, du coup, Émile Clergé qui a gagné.
Il est
dans
où cet EHPAD?
Et à Nevers.
Juste une petite question, du coup, on parle de l'EHPADathlon, etc., mais les épreuves, concrètement, c'est quoi, alors? C'est un peu une sorte d'Olympiade, c'est ça, entre des maisons de retraite, en fait, c'est ça?
C'est un
C'est un peu ça.
Alors, Olympiade, doucement, il ne faut pas non plus qu'on reste dans la logique de sportivité, ouais. Mais on est avant tout sur des épreuves très simples de motricité fine, sur des épreuves de, comment dire, d'agilité, d'équilibre, sur des parcours, en fait, tout simplement, des parcours de marche. Là, lors de la journée des finales à 2-6, on s'était lancé le défi de remettre des résidents sur des tricycles électriques en installant un vélodrome au sein de la salle des fêtes de 2-6. Je dois dire que j'étais plutôt satisfait que l'épreuve se termine à la fin de la journée.
Ah ouais, d'accord.
Puisque à chaque coup de pédale, la vitesse augmentait. Et je dois dire que des gens qui n'avaient pas fait de vélo depuis 25 ans m'ont assez étonné.
D'accord. Ah oui, d'accord. Ok. 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 Et d'autres épreuves, moi j'avais déjà vu des je sais pas si dans d'autres départements des concours de tricot ou de choses comme ça. Non, on n'est pas là-dessus là.
Alors là, on n'est pas là-dessus, non. Vraiment, on est sur des épreuves assez simples qui sont de l'ordre de l'activité physique adaptée. On avait par exemple là sur les épreuves de la finale un grand parachute qui est une grande toile sur lequel on devait tout simplement coopérer et collaborer pour faire sortir des petites balles par un trou qui se trouvait en plein milieu. Mmh. L'idée, c'est de mobiliser notamment la ligne d'épaule pour les résidents. Donc non, on est sur des choses assez simples.
Mmh. D'accord.
Et comment vous arbitrez ? C'est qui arbitre en fait ? C'est qui dit ?
Alors, nos animateurs animent chaque atelier et notre coordinatrice activité physique adaptée met en place une petite grille qui permet effectivement de
points,
exactement
de départager.
Exactement, tout c'est ça par grille de points.
Ok, très bien. Et du coup, c'est une initiative qui va se renouveler ou pas ?
Oui, sur l'année prochaine, sur le fond ne changera pas, mais la forme va évoluer. Je trouve ça vraiment dans une dynamique, justement, comme Monsieur Frélon disait, de créer de nouvelles choses et justement de penser un peu au futur et de changer, sans changer le fond, mais la forme, pour que justement la compétitivité qu'il y avait un peu cette année entre certaines EHPAD n'ait plus forcément lieu, ou du moins sous un autre modèle.
Okay.
On vous invite à venir.
Ah bah, avec plaisir.
Bah, on peut se dire que vous pourriez éventuellement en parler aussi sur Bac FM aussi, pour en parler en amont, justement. Pour qu'on...
Avec plaisir.
Ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup Alizé, merci beaucoup Julien pour toutes ces infos intéressantes. À bientôt.
Merci Clémence, merci Julien, merci Alizé. Je vous propose de faire une petite pause musicale avant de se retrouver pour pouvoir échanger, parler ergothérapie notamment, avec Julien Houdin. À tout de suite sur Bac FM.
Un grand vent nouveau souffle sur le pays. Très chaudement, dans un bain de foule dévot, à moitié épaillie. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien, tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
De retour sur l'antenne de Bac FM, dans le studio de Bac FM, avec notre... je sais qu'il y a déjà des gens qui t'ont dit ça, Julien, le Géo trouve tout, un peu. Hein. Alors, Julien, avant de parler de technologie, de bras robotisés, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi et de ton histoire. Quand on regarde ton parcours, on voit que tu viens de l'Est, et que tu es arrivé dans la Nièvre il y a quelques temps. C'était pour le travail
Tout à fait, c'est ça. En fait, j'ai fait mes études d'ergothérapeute dans l'Est de la France, à Nancy. Et une fois diplômé, j'ai cherché des emplois à gauche à droite avec ma compagne qui était aussi ergothérapeute. Et on y arrivait par hasard dans la Nièvre. Et on y est, en fait, depuis 2008 maintenant. Ça fait 17 ans qu'on est dans la Nièvre.
D'accord. Donc on peut dire que tu es nivernais maintenant.
Oui, d'adoption.
D'adoption, ok. Tu t'y plais ?
Carrément, ouais. C'est super, ouais. On a une belle qualité de vie ici.
Ouais. Un peu partout, quand on fait des recherches sur toi, sur le net, hein, quand on lit des articles te concernant, parce que tu commences à être un petit peu connu, mine de rien, hein, on voit souvent un mot qui revient, mais j'aimerais qu'on en parle de ce mot-là, c'est le mot « maker ». Hein, c'est ouais. D'ailleurs pas pour rien qu'on en reparlera un peu tout à l'heure, à propos d'une micro-entreprise qui s'appelle « Maker Go », quelque chose comme ça.
C'est ça.
Ouais. C'est quoi ce mot « maker » ? Il représente quelque chose pour toi, au fond ?
Oui, bah, le maker, en fait, à la base, c'est le bricoleur. Et ça a été amené dans les années 80, 70, 80, 90. Et puis, ça a pris de l'ampleur avec l'arrivée des Fab Labs dans les années 90. L'utilisation de technologies rendues accessibles au plus grand nombre. On pense à l'impression 3D, par exemple, à la découpe, mais ça peut être de la menuiserie. Et le monde des makers, bah, c'est des gens qui veulent faire un peu eux-mêmes, qui s'intéressent à la manière dont fonctionnent les choses, qui veulent les réparer. Et moi, j'ai toujours été un petit peu bidouilleur comme ça, et ça s'applique très bien à la profession d'ergothérapeute, qui peut demander beaucoup de personnalisation pour pouvoir fabriquer des choses adaptées aux personnes.
Quand tu avais choisi l'ergothérapie au début de tes études, comme ça, tu t'imaginais déjà que ton métier t'amènerait à inventer, à bidouiller, à concevoir des objets sur mesure, que cette dimension créative, elle est venue naturellement avec les besoins du terrain, ou tu l'avais déjà un peu en toi ?
Non, mais j'avais en moi peut-être, étant bricoleur, enfant, enfin ça c'est une chose, mais après pendant les études, pas du tout, j'étais plus sur de la préconisation, d'aide technique, de produits, de séries, d'appareillages en fait qu'on peut acheter. Et c'est ce qu'on nous apprenait pendant les études. Il y avait une part artisanale aussi, une part d'adaptation, mais c'était pas la plus grosse. Et en rentrant dans ces études, j'avais aucune idée de ça. Et c'est venu à travers la pratique. J'ai travaillé pendant 17 ans auprès de personnes en situation de handicap moteur assez importante, qui ont des besoins d'adaptation très élevés et qui n'ont pas toujours de solution sur le marché. Donc, à force de pratiquer, on est obligé d'adapter, de fabriquer. Et c'est venu vraiment au fil de l'eau. Et aussi, il faut le dire, grâce au conseil départemental de la Nièvre, il y a longtemps maintenant, ça fait 10 ans, a mis en place un réseau de Fab Labs, d'ateliers de fabrication numérique, des lieux ouverts aux makers et à tous, qui m'ont permis d'apprendre à utiliser une imprimante 3D, à programmer, et du coup à pouvoir intégrer ces technologies dans ma pratique.
Mais le Fab Lab là, dont tu parles, c'est pas ouvert du coup qu'aux ergothérapeutes, là, c'est vraiment ouvert à tout le monde.
Ouais, les Fab Labs sont ouverts à tout le monde. Il y a un réseau des Fab Labs départementaux, il y en a plusieurs dans la Nièvre. Je pense à celui de Clamecy qui historiquement était le premier. Il y en a à Luzy également, il y en a à Manicourt, à la ferme du Marot. Et ce sont des espaces qui sont ouverts à tous, de tout âge. Et c'est des lieux en général où on est très bien accueilli par une équipe, un Fab Manager qui va vous aider à vous présenter les lieux, à vous présenter les machines et vous accompagner dans la réalisation de projets.
Alors, quand on avait échangé ensemble, on a échangé déjà ensemble un peu, tu m'avais parlé un peu de ce fameux, on doit souvent t'en parler, de ce fameux bras robotisé, et tu m'avais parlé d'une phrase d'accroche où je m'étais dit, en fait, il utilise l'humour pour accrocher, pour dédramatiser un peu. Tu m'avais parlé du pas de bras, pas de chocolat, je ne sais pas si tu te rappelles. Tu peux nous raconter cette histoire de pas de bras, pas de chocolat, qui est une façon un peu osée de parler du handicap et puis des besoins des personnes en situation de handicap?
La demande, elle est très simple. À la base, j'accompagnais une personne, Christelle, qui est une jeune femme, et qui souhaitait pouvoir manger toute seule. On lui avait fait essayer des solutions commercialisées, un bras robotisé, un bras qui permet d'amener une cuillère à la bouche et qui lui permettait de manger. Elle a pu l'essayer, mais à l'époque, ça c'était en 2010, on n'avait pas réussi à le faire financer par la MDPH de son département d'origine. La MDPH, c'est la Maison Départementale des Personnes Handicapées,
okay.
Qui donne des aides pour pouvoir acquérir du matériel. Et donc, cette personne avait pu essayer un super matériel qui la rendait indépendante pour pouvoir manger, mais on n'avait pas réussi à le faire financer. Et c'était assez frustrant pour elle. Et la même année, j'ai pu participer à un marathon d'innovation en santé qui regroupait des ingénieurs, des étudiants de différentes écoles, des porteurs de projets, pour pouvoir réfléchir ensemble à des problématiques. Et moi, je suis arrivé, c'était à Besançon, du coup, en 2018, à apporter cette problématique et pour constituer une équipe. J'ai sorti ce slogan « pas de bras, pas de chocolat » pour essayer de rallier des gens à cette cause. Et ce qui était assez chouette, c'est que le temps d'un week-end, on avait pu travailler avec une douzaine de personnes, étudiants en électrique, en électronique, en mécanique, pour pouvoir prototyper un produit d'aide à la prise des repas. Et suite à ça, on a pu développer cette technique pendant 2 ans derrière, directement au sein du foyer d'accueil médicalisé d'Infi. On a pu avoir des prototypes et on a fait de la co-construction, de la co-conception avec Christelle, l'utilisatrice. Et ça, c'est une aventure qui s'est déroulée sur plusieurs années et qui nous a vraiment aidé à monter en compétence, d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue humain, en quittant différents partenariats. Et en rentrant vraiment dans une démarche de co-design.
Et ce bras robotisé aujourd'hui, il est en open source, c'est ça? C'est-à-dire qu'on peut on peut le fabriquer, il y a des droits, il y a quelque chose.
Alors, ce qui est bien aussi dans l'univers des makers, c'est qu'il y a cette dimension d'apprentissage, mais aussi de partage. Et souvent, on peut mettre les plans en libre accès en open source pour que d'autres personnes, n'importe où dans le monde, puissent pouvoir le reproduire. Donc, l'idée de ce projet, c'était vraiment de proposer une solution qui soit facilement reproductible par n'importe qui dans le monde. Donc à l'heure actuelle, les plans sont en libre accès. Après, on n'a pas été jusqu'à un stade de développement suffisant pour pouvoir le généraliser. Donc on peut le reproduire, mais ce serait dans un but de recherche et d'expérimentation. On n'a pas encore un produit complètement fini qui est suffisamment stable pour pouvoir l'utiliser au quotidien. Mais les plans sont en libre accès pour quelqu'un qui aurait envie de travailler dessus, par exemple.
D'accord, ok. Ok. Donc ça, c'est pour la partie autonomie de la vie de tous les jours. Toi, on le disait un peu tout à l'heure, hein, tu es passionné, enfin en tout cas, tu aimes alors, évidemment ton métier, évidemment les gens, mais aussi le jeu vidéo plus particulièrement aussi. Tu as créé il y a quelque temps cette petite structure, petite entreprise, micro-entreprise, je sais pas quel est le statut exactement, qui est MakerGo,
micro-entreprise. Entreprise individuelle,
ouais. Ok. Alors, MakerGo, c'est quoi exactement?
Eh bien, MakerGo, en fait, c'est pour faire profiter de mes années, de mon expérience, en fait, dans le champ de la réadaptation du handicap et de l'utilisation des technologies pour proposer des solutions de conseil, de consulting, donc, d'accompagnement, d'enseignement, et puis de conception aussi de dispositifs qui pourraient répondre à des besoins très particuliers. Donc concrètement, aider des gens à reproduire des modèles open source, par exemple, réfléchir. On parle de jeux vidéo, ça peut être des petites manettes, des choses comme ça. Et puis je propose de la sensibilisation, des animations à tout type d'établissement. Ça peut être des médiathèques, ça peut être des professionnels de santé, des professionnels médico-sociaux, pour montrer les différentes possibilités en termes d'adaptation pour pouvoir jouer aux jeux vidéo ou à d'autres thématiques dans le champ de la réadaptation, des aides de motifs, de la robotique, des choses un peu techniques.
Tu parles de jeux vidéo, du coup, il y a des exemples d'adaptation de manettes particulières qu'on n'imagine pas forcément. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'aurait pas de motricité au niveau des bras, par exemple, il peut jouer aux jeux vidéo
Complètement, et ça s'est beaucoup démocratisé ces dernières années. Il y a plein de solutions qui sont arrivées, et notamment des solutions open source que chacun peut utiliser assez facilement, souvent gratuitement. Il faut juste savoir où les retrouver. Mais par exemple, je travaille, on a testé, on a fait partie d'une aventure qui s'appelle Playability. Ouais. Et donc Playability, c'est un logiciel qui permet à partir d'une... Il y a d'avoir une webcam sur son ordinateur, et à partir de son ordinateur, on peut transformer n'importe quel mouvement du visage ou de la tête en mouvement qu'on pourrait faire sur une manette ou en appui de touche. Donc on peut imaginer que pour contrôler une voiture de course, on penche la tête à gauche et à droite, ça nous permet de tourner. Et
d'accord.
Puis pour accélérer, on peut sourire. Et grâce à ça, on peut contrôler une console, un jeu vidéo, simplement avec des mouvements du visage.
Et ça, c'est accessible comment ? Ou quelqu'un qui nous écoute, là, il...
Sur Internet, la personne qui développe ça s'appelle Valentin. C'est un inventeur un petit peu fou, YouTuber, et qui travaille sur ce projet depuis 2 ans maintenant. Et vous allez sur son site, Playability. Il y a une version d'essai qui est entièrement gratuite et qui permet de jouer. Elle est pleinement fonctionnelle, elle n'est pas limitée dans le temps. Et vous pouvez l'essayer assez facilement.
Ok, super. Alors, on parle du Julien Houdin, ergothérapeute, de l'entrepreneur individuel. On parle aussi de l'enseignant. Tu donnes des cours d'ergothérapie, c'est ça, à l'école d'ergothérapie de Nevers ?
Oui, c'est ça. Depuis son ouverture, j'interviens en tant qu'enseignant vacataire sur des thématiques, encore une fois, liées au handicap et à la technologie, à savoir la domotique, comment contrôler son environnement proche. J'ai une grosse partie de formation aussi sur l'utilisation de l'impression 3D en ergothérapie avec les patients. Et puis, d'autres thématiques en lien avec le numérique. Ça peut être différents types de dispositifs pour pouvoir contrôler la robotique. Et j'interviens à l'école d'ergothérapie de Nevers et à celle de Bourges aussi.
À celle de Bourges également, d'accord. Et qu'est-ce qui t'anime par rapport à ça ? Qu'est-ce que tu as envie d'insuffler ? Une posture particulière ? Un état d'esprit ? Une façon de voir le métier ?
Oui, ce que j'aime bien, c'est de montrer aux étudiants qu'il est possible de faire des choses par soi-même. Ce côté maker, il revient seulement dans la profession. Il s'était un petit peu perdu dans les années 70-80. L'ergothérapie était très artisanale. On faisait de la menuiserie, de la poterie, enfin, je dis on faisait, j'ai pas connu, mais. Et ensuite, on s'est orienté vers des solutions commercialisées. Maintenant, grâce à des nouvelles technologies, on revient vers la fabrication avec les patients, pour et avec les patients. Et ça, c'est intéressant de montrer qu'on peut faire des choses localement.
Ok. Merci, Julien. Avant qu'on se quitte, si tu avais un message à laisser aux auditeurs de Bac FM, quelque chose qui te tient à cœur, tu dirais quoi ?
Quelque chose qui me tient à cœur.
Non, mais c'est pas.
Je ne vais pas vous conseiller de jouer aux jeux vidéo. Non, je ne vois pas.
Ça marche. Merci Julien. En tout cas, merci aux invités. Merci Julien Frélon. Merci Alizé d'être venu au micro de Bac FM pour parler de votre activité. Merci à Clémence. L'émission touche à sa fin. Je vous propose de vous retrouver le mois prochain pour parler avenir mode d'emploi. En attendant, passez de bonnes fêtes. Prenez soin de vous et à l'année prochaine.